Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur la totale de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la totale de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la totale de la semaine, nous recevons en ligne le docteur de Joseph Kakisingi. Il est coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires de développement de la RDC, CONAFOD en sigle, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Bonjour, docteur de Joseph Kakisingi.
Bonjour, monsieur Guimaté.
En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Bonjour, madame Colette Bachmann.
Bonjour, monsieur Maté.
Et lui, il va nous rejoindre, il n'est pas encore là, c'est Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias, les francs-tireurs et Baptiste Afrique. Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Mike Gardi Diana. Il est journaliste et éditeur des médias Les Finances-Tireurs.net et Baptiste Afrique. Docteur de Joseph Kakisingi, il est coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC, CONAFOD en sigle, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toutes les étendues du territoire national. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, madame Colette Zachmann, elle est journaliste au journal Les Soirs. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir retrait des troupes de l'HC M23 RDF à Ouvira, conséquences possibles sur le mouvement des populations, réaction au deal avec Donald Trump, et enfin focus sur la réforme de la facture normalisée. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du verdict dans le procès Roger Lumbala. En effet, l'ancien chef rebelle et ministre congolais Roger Lumbala a été condamné lundi 15 décembre à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris en France. Il est poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité commis par ses soldats entre 2002 et 2003 en RDC. La cour d'assises de Paris a jugé Roger Lumbala en vertu de la compétence universelle qu'elle s'octroie pour instruire les crimes contre l'humanité. Cet ex-seigneur de guerre, qui dispose de 10 jours pour faire appel, avait refusé d'assister à son procès contestant la légitimité de la justice française. Il est toutefois prévenu écouter les verdicts de manière impassible. Le procès de Roger Lumbala s'était ouvert le 12 novembre dernier. En réaction, le collectif des avocats de l'ancien opposant congolais Roger Lumbala a annoncé mardi 16 décembre qu'il allait interjeter appel après cette condamnation. C'est Maître Tshibangu Kalala qui l'a confirmé à Radio Okapi. Selon lui, la défense n'est pas surprise par ces verdicts dans la mesure où Roger Lumbala avait refusé d'assister aux audiences. Docteur de Joseph Kakisingi, que vous inspire cette condamnation de Roger Lumbala à 30 ans de réclusion criminelle?
Donc ça m'inspire en fait la fin de l'impunité. C'est un signal fort à tout ce qui se verse dans la donc les actes qui frisent en fait le droit international, le droit humanitaire et la criminalité tout court. Parce que vous savez que au Congo, la criminalité semble continuer parce qu'il n'y a pas de répression, les gens ne rendent pas compte vis-à-vis de leurs actes ignobles vis-à-vis des êtres humains. Et pour moi, ça c'est un signal fort qui vient comme un message pour dire il faut faire attention, ce que vous faites aujourd'hui peut vous coûter cher plus tard et ça peut ramener les gens à réfléchir deux fois avant de se verser dans des actions qui, qui détruisent des vies, qui ont un impact sur la vie humaine ou sur la vie des communautés.
Merci, Madame Colette Portman. Cette condamnation suffirait-elle pour décourager cette attitude qui consiste à recourir aux armes pour se faire entendre?
C'est pas tout à fait suffisant parce que ça se déroule dans une capitale étrangère. Paris est loin, Lomballe est loin, alors qu'il y a tant de criminels qui sont encore en liberté dans le pays, dans toutes les guerres qui se poursuivent. Donc il est vraiment urgent de mettre en place une justice nationale à laquelle les gens puissent adhérer et qui puissent suivre plus facilement, parce que les péripéties du procès Lomballe pour le Congolais de base, à part les radios périphériques et l'information internationale, ils en sont très loin, quoi. Et donc, ce qui, pour moi, l'urgence, c'est la justice nationale congolaise qui doit lutter contre l'impunité.
Merci, docteur De Joseph Fokakisingi. On revient vers vous. Ces verdicts n'étaient-ils pas attendus vu les différents témoignages à charge contre Lomballe et aussi, comme l'a relevé son avocat, le fait que l'accusé a refusé d'assister aux audiences?
D'abord, je commence par rejoindre le point de vue de Mme Colette. C'est un signal important, mais si cela se faisait au pays ou s'il y avait un mécanisme installé au pays, ça ferait beaucoup plus peur et ça serait dissuasif. Comme ça, c'est une action qui se passe en France, évidemment. Bon, les gens peuvent se dire, moi, je n'irai jamais là-bas, je peux faire mes choses, je suis protégé aussi longtemps que je suis sur le territoire. Et donc, pour revenir sur votre question, je pense que ceci était prévisible. Parce que les gens sont toujours pleins, les gens ont été déçus de voir qu'ils ont subi des violences, ils ont été victimes, mais il n'y a rien qui a été fait. Quand ceci est fait, les gens sont satisfaits. Ceux qui ont été en tout cas victimes, ils se disent, c'est un pas. Reconnaître qu'on a été victime et que le bourreau est jugé, c'est déjà un signal fort et un sujet de satisfaction, mais il faut aller au-delà.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Affaire Kitikwala de Lutumba Simaro Massia avec la voix de Carlito Lassa et on se retrouve juste après.
Tambwe tata yela ngalinda nana kimposa ya koyemba ona kolela la vie mpasi ya mokile Tambwe masasi tata yela ngalinda nana kimposa ngana yemba ona koyemba mpasi ya mokile Bitambwe luntadila tata simanga itokene na mokili ya seto zute oto kozwa tako na paradiso e. Sambela kae, natangwe ya mpoko aliboso ya kolala, sambela kanza komba. Sambela kae, ataliboso ya kobenda mwankoko, sambela kae yave. Na mokili ya nse, Zamba kababa chansa kababi lomyo Na mokili yanse, egalite ike leveo Na mokili yanse, eko mama bongo Egaliteo, ezalite na zando pena tango ya liwa Olela kateo Na bolingo yanse, mibali balingi sebasi ya mogulu Oya konyo kola ye, nye akolinga ye miyo Eko mama bongo, basi balingi mabala ya monyokoli Oya kosali saye, nye ako kamata inezoba Na bolingo yanse, eko mama bongo Boto yo kolinga ye, nye ako linga mososo mama Ye ye, ye 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 Odina sisi ye, neko tika nano kole la longo la loba kona litama ye Longola loba kona litama kiliko e Longola mpinzoli na miso amisi e Longola loba kona litama ma om kona kore na la vi pati amo kile ngai na zala kana zua na tekela basi ya mabala na zala kana lendo na tekela bae baswa kitoko kitoko eloko pambae kitoko nde mabeleo na zala kana puta na tikela batailleur na ba memiseo mama e na tikela ba super na ba mécanicien lokuta na ngai na kinela ba technicien ya ba télévision na ba frigo na kama lokuta na nga na ba escro na ba nganga nkisie mama ye ye nintambwe sara lokora ngai na mokili ya nse eloko moko tokopesa toli ata ozangi nyonso kasi kozanga mbeto te o somba mbeto ya kitoko mokolo yokokufa ndeko esuki mbeto ya kitikwala ebembe na yo ekoyoka nsoni kinshasa makambo na matanga tomonaka nde makambo basusu bakolela basusu bakotonga mbeto ya mowei sutu soki oyebanaka mokilingo makambo mama mokilingo makambo mama e
c'était Affaire Kitikwala du poète Lutumba Simaro Massia avec la voix de Carlito Lassa. Le poète Lutumba Simaro Massia nous a quitté le 30 mars 2019 à Paris, en France, à l'âge de 81 ans. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Situation sécuritaire à Uvira, alors que la CM23 a annoncé le début du processus de retrait de ses troupes d'Uvira. Certains confirment cette réalité, tandis que d'autres doutent de cette opération de retrait. Il y a des sources qui affirment que ces combattants sont réellement en train de quitter la ville avec leurs effets militaires en direction du nord de la ville vers Kamanyola, leur position initiale. Un des notables d'Uvira, que nous avons joint jeudi, a indiqué que certaines maisons occupées par quelques éléments de la CM23 sont déjà libérées, surtout celles se trouvant au quartier Nyamianda. Par ailleurs, plusieurs témoins signalaient une présence des combattants du M23 en position de départ vers la plaine des Ruzizi. Docteur de Joseph Kakisingi, vous êtes coordinateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC CONAFOD, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité en la formulant ainsi: retrait des troupes de la SCM-23 RDF à Uvira, conséquences possibles sur le mouvement des populations. On vous écoute.
Oui, Monsieur Guy. Comme vous le savez, quand la guerre a éclaté à Kamanyola, pour le contrôle de Kamanyola, cela s'est suivi par un déplacement massif de la population de toute la plaine de la Ruzizi. Au fur et à mesure que la guerre avançait, la population s'est déplacée. Une partie est entrée vers le Rwanda, une partie vers le Burundi à travers les différents passages qu'il y a entre Burundi et le Congo à travers la rivière Ruzizi. Une grande partie est entré par Bujumbura, et une autre partie a continué à progresser avec le retrait des FRDC et a traversé le lac pour arriver à part l'intérieur de Bujumbura à travers la ville de Rumonge et d'autres villages tout au long du lac Tanganyika. Alors, du côté du Burundi, apparemment, on ne s'était pas préparé à accueillir cet afflux massif et ça fait que l'accueil pose problème. On sent que le camp n'était pas préparé, le nombre est plus important que ce qu'ils pouvaient prendre, et ça fait que la prise en charge devient difficile. Les déplacés trouvent des difficultés à avoir à manger, à avoir des abris, à avoir des soins médicaux, et donc ça devient très très difficile. La solution reste maintenant de retourner pour qu'ils puissent regagner leur maison, qu'ils puissent avoir leur domicile, qu'ils puissent avoir accès aux champs et au moyen de subsistance. Alors c'est ainsi que le retrait de tout tel qu'annoncé constitue un espoir. Et l'espoir pour tous ces gens qui sont déplacés de pouvoir rentrer dans leur ménage, de pouvoir rentrer chez eux. Alors, ce qui s'observe aujourd'hui, c'est que les gens sont encore prudents. C'est vrai, on observe les mouvements de retrait, mais on observe encore des gens qu'on appelle de la police de province de M23. Mais jusque-là, la frontière reste fermée entre le Burundi et Uvira. Ça fait que les retours tardent à venir.
Et justement, docteur de Joseph Kakisingi, quelle pourrait être l'attitude de cette population qui a quitté la ville à la suite, n'est-ce pas, de l'arrivée des rebelles, quand l'annonce de ces retraits soulève beaucoup d'incertitudes?
Effectivement, les gens qui ont fui, ils restent dubitatifs. Ils ne savent pas réellement est-ce que les troupes se sont retirées, est-ce que les troupes sont restées. Quand les troupes se retirent, comment ça va se faire pour garantir la sécurité? Est-ce que ce sont les Wazalendo et les FARC qui vont venir? Est-ce qu'il y aura d'autres forces nettes qui vont arriver? Comment va se faire la sécurité? Alors, tout ça sont des questions qui se posent entre les gens qui ont fui, en tout cas les déplacés. Mais les conditions dans les cas où ils sont telles qu'ils disent, si on peut rentrer, c'est mieux qu'on rentre. Et qu'on attende la suite là-bas, parce que là où ils sont, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'abri. On a signalé des cas de décès des enfants dans certains camps, parce qu'il n'y avait pas de soins, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour accueillir les gens. Alors, l'espoir s'est fait, en fait, le retrait permet une certaine possibilité de rentrer, une certaine possibilité de se réinstaller chez soi. Et c'est ça l'espoir, en fait, qui nourrit tous ces déplacés-là qui sont dans des cas improvisés et structure d'accueil préparée pour les accueillir.
Merci, merci Madame Colette Blackman. Vous êtes journaliste au journal Le Soir. Ces retraits, au lieu d'être une solution, il ne risque-t-il pas de créer davantage de confusion, parce que, entre-temps, non seulement on ne sait pas qui va sécuriser cette ville, mais aussi quel serait, n'est-ce pas, l'essor des personnes qui pourraient avoir fait allégeance à cette rébellion de la SCM-23, comme cela est souvent constaté, hein, quand une force investit une localité donnée.
Ben, je crois qu'il est urgent qu'une force de l'ordre, quelle qu'elle soit, que ce soit celle du gouvernement, de la police congolaise ou de l'armée, investisse les lieux et les tienne vraiment les contrôles le mieux possible. Cela dit, je me demande quand même où vont les combattants du M23. Est-ce qu'ils remontent vers le nord, direction le nord Kivu et Goma, ou est-ce qu'ils n'auraient pas envie de s'égayer dans les collines autour de Vira, dans les montagnes où il y a des populations d'origine tutsi qui se sentent peut-être menacées d'ailleurs par les Wazalendo ou les Maïmaï. Ils n'ont pas des positions de repli au-dessus d'Ouvira en attendant que les Américains et d'autres détournent le regard, allègent un peu la pression et est-ce que ça n'est pas reculé pour mieux revenir? On peut tout de même encore se poser la question et donc il faut absolument que les forces congolaises, l'armée, la police, investissent les lieux, les reprennent, les contrôlent et les défendent s'il le faut.
Oui, Marc Gardi Diana, bonjour, nous vous recevons dans cette émission, on n'a pas eu le temps de se saluer au départ. Bonjour.
Bonjour, Guy Vatin.
Voilà, vous êtes journaliste et éditeur des médias lesfrancs-tireurs.net et Baptiste Afrique. Mmh. Alors nous parlons, n'est-ce pas, de cette annonce du M23 de se retirer de la ville d'Ouvira. Et même si ce retrait est confirmé, et qu'est-ce qu'il changerait sur la situation sécuritaire dans cette zone, et surtout si c'est seulement, et comme l'a dit Madame Colette Batman, elle se pose la question de savoir où est-ce que ces gens vont, et jusque-là on dit qu'ils vont se retirer seulement de la ville d'Ouvira. Qu'est-ce que cela changerait, surtout que même en se retirant, ils ont dit qu'ils ne vont tolérer aucune remilitarisation de cette ville?
Merci pour la question. Je crois que quand vous posez la question, qu'est-ce que ça changerait sur terrain, je pense que pour du côté congolais, pas grand-chose, dans la mesure où la position a été claire. L'idée ici pour pouvoir enclencher et finir les discussions de Doha, c'est le retrait complet. Le porte-parole du gouvernement l'a encore dit il y a quelques heures, ou pour ne pas dire hier, sur le zone de Top Congo. Mais en fait, la vérité, moi je pose également la question, je me dis, cette annonce, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'estime que quelques jours après la réunion du Conseil de sécurité, quelques jours où il y a eu une pression qui s'est exercée sur le Rwanda particulièrement, on nous annonce le retrait avec quelques conditionnalités. J'estime encore une fois le plus, c'est une stratégie pour pouvoir contenir la pression internationale le temps que cette pression passe un tout petit peu et que finalement, des gens qui sont dans la stratégie des talk and fight pour pouvoir un peu gérer ce qui va arriver après. Donc dans le fond, jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'est vérifié. On parle, oui, de retrait. Ils se sont retirés où? Et est-ce que le processus a déjà commencé? Jusque là, au-delà des effets d'annonce, il n'y a aucun élément probant qui nous prouve suffisamment qu'il y a retrait. Et surtout, ce retrait avec des conditionnalités du genre on ne veut pas une sorte de remilitarisation de l'espace, traduit encore une mauvaise foi. Moi, je veux répondre direct à la question posée tout à l'heure par ma prédécesseur, c'est que forcément, quelqu'un qui a eu une position stratégique, une ascendance stratégique sur un espace, ne voudra pas la perdre juste pour de raisons simples. Je crois que les collines sont des zones appropriées. Ils vont rester là avec une capacité de projection pour pouvoir intervenir au cas échéant sans savoir comment. Et j'espère encore une fois de plus qu'ils ne voudront pas perdre cette main des peurs de fragiliser un peu la dynamique, parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est juste pouvoir exercer une pression sur le gouvernement congolais en vue des accords de Doha qui arrivent. Et surtout, on sait également qu'ils ne sont pas très en phase avec cet accord signé à Washington qui du reste pose encore problème déjà de ce côté-là et surtout de proche du ACM23.
Et si à première vue ces retraits ne permettraient pas, comme nous le disons ici, d'échanger la donne sur le terrain, quel pourrait être son mérite?
Je crois que vous verrez, regardez l'attitude. Vous verrez que l'attitude du gouvernement, on évite tout triomphalisme et on n'a même pas besoin, il n'y a aucune raison d'être triomphaliste sur cette question-là. L'objectif, c'est comme je vous ai dit, c'est de la même manière qu'ils ont parlé de retrait unilatéral, de la même manière que l'intérêt est unilatéral. Parce que ça permet de redorer l'image, donner la posture de gens qui se montrent pacifiques. J'ai aimé les assertions utilisées en début de son discours par Corneille Nangaa, mais malheureusement, c'est de la manipulation, c'est comme je l'ai dit. Donc l'idée de « on veut, on prouve notre bonne foi sur notre capacité à vouloir négocier et que la paix soit trouvée », mais dans le fond, encore une fois de plus, c'est comme je dis, quand il y a une pression qui s'est exercée, quand le représentant, j'ai aimé le discours de l'ambassadeur américain, qui s'exerce sur le Rwanda, dans une phase aussi cruciale comme ça, l'idée de pouvoir contenir cette pression-là, je crois que ce n'est qu'une question stratégique, surtout pour un État comme le Rwanda, qui depuis toujours fait dans la profondeur stratégique, et je crois que l'attitude du gouvernement, pour moi, est très responsable, n'est pas tombée dans le triomphalisme pour une initiative qui est unilatérale, que ce soit en termes d'intérêt ou en termes d'autres types de bénéfices, que de la part du M23 et personne d'autre.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Ce mercredi 24 décembre, c'est la date anniversaire d'annonce David de Laurent Niboma, alias Kanta Niboma, cet auteur, compositeur et chanteur de charme congolais qui évolue à l'étranger depuis plusieurs années. À cette occasion, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée Mouta, ces classiques qu'il avait composé dans l'orchestre Lipoa Lipoa. On écoute donc Mouta avec Kanta Niboma et on revient juste après le journal de 8 heures.
Thank you. mama yeye.
Oh mama yeye.
Loro babele oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Bitsuege mama yeye.
Oh mama yeye.
Yalungila oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Sukivango mama yeye.
Oh mama yeye.
Epekale oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Etusala yo mama yeye.
Oh mama yeye.
Ambasiyo oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Yawangana oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Yawangana oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Mezeyo oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Omero mama yeye.
Oh mama yeye.
Mezizinso mama yeye.
Oh mama yeye.
Nona oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Toto oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Ochila oh mama yeye.
Oh mama yeye.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du verdict dans les procès Roger Mbala. Nous avons également analysé l'annonce directe de l'AFC M23 RDF de Uvira au sud Kivu. Participe à cette émission, Mike Gardi Diana, journaliste et éditeur de médias lesfrancs-tireurs.net, Baptiste Afrique, docteur de Joseph Fokakisingi, coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC, qu'on affole en sigle, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Plattmann, elle est journaliste au journal Les Soirs. Le docteur Denis Mukwege avait accusé à quelques jours de la signature de l'accord de Washington, le Rwanda, d'exercer une annexion de fait sur les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo et dénoncé les processus diplomatiques de Washington et de Doha qu'il juge incapables de mettre fin au conflit et motivés par des intérêts économiques étrangers. Dans une déclaration particulièrement sévère, le prix Nobel de la paix a estimé que les initiatives de paix actuelles élaborées dans des capitales étrangères sans transparence ni inclusion s'inscrivent dans une longue histoire de décisions imposées au Congo au mépris des aspirations de son peuple. Selon lui, l'accord cadre de Doha n'offre ni mécanisme contraignant, ni calendrier précis, ni garantie de mise en œuvre, alors que, malgré la signature des deux protocoles, le M23 et l'Alliance Fleuve Congo ont poursuivi des opérations offensives et enfreint le cessez-le-feu. Denis Mukwege dénonce également un déficit des participation et de transparence dans les processus en cours qu'il qualifie d'opaques bilatéraux alors que la crise est régionale et contraire au droit international dans la mesure où ils tendent à normaliser une agression armée. Pour rappel, c'est le jeudi 4 décembre que le président congolais Félix Tshisekedi et le rwandais Paul Kagame ont entériné à Washington l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier sous médiation américaine. Madame Colette Bachmann, vous avez souhaité nous parler de ce deal avec Donald Trump. On vous écoute.
Mais moi, je partage tout à fait le point de vue du docteur Mukwege. J'ai parfois l'impression que l'histoire se répète, qu'on est comme au lendemain de la conférence de Berlin, où les puissances coloniales de l'époque, qui étaient l'Angleterre, la France, la Belgique de Léopold II, l'Allemagne, se sont partagées le Congo en fonction de leurs propres ambitions et de leurs intérêts. Ou bien on peut revenir au siècle suivant, Yalta, le partage de l'Europe aussi d'après les puissances, où les peuples n'ont rien à dire, on trace des lignes, et voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Congo maintenant, où la puissance présente, c'est-à-dire les autorités de Kinshasa, qui ont surtout en vue leur maintien au pouvoir, on ne savait plus à quel sein se vouer, et ont simplement essayé de satisfaire les ambitions hégémoniques de l'Amérique. L'Amérique qui a besoin de l'accès aux minerais stratégiques et qui a un besoin géopolitique de supplanter la Chine, de faire reculer la Russie, de supplanter la Chine et d'écarter l'Europe. Mais l'Europe, elle est où dans toute cette histoire? L'Europe est muette. Les anciennes puissances coloniales européennes qui ont au minimum un devoir moral de s'intéresser à des pays qui... Un pays comme le Congo, qui est une ancienne colonie, qui a été mis en valeur par la Belgique, qui a servi à l'expansion économique de la Belgique. On n'entend rien. Les Américains ont fait main basse sur le Congo, on refait la conférence de Berlin à huis clos, et on n'entend rien. L'Europe se couche, l'Europe s'incline. Il faut dire aussi que l'Europe aurait pu, depuis longtemps, investir au Congo, ne pas laisser la place aux Chinois, par exemple, après la fin du régime Mobutu, mais elle ne l'a pas fait, elle a détourné le regard, donc c'est à la fois, c'est un délit, disons, de lâcheté, d'aveuglement, pour un accord qui n'en est pas un, qui est une prise de possession des États-Unis, enfin, supposé et souhaité, parce que ce n'est pas encore fait, et à mon avis, la difficulté du terrain congolais va tout à fait se manifester, et que les Américains, avec peut-être une certaine naïveté, n'ont pas vu dans quel imbroglio ils se trouvaient, ni les difficultés logistiques, les difficultés géographiques que présente le Congo. C'est pas si facile. Prenons l'exemple du lithium de Manono. Bon, le lithium, évidemment, il est lorgné par la société Cobalt, une société américaine, mais Manono, c'est loin. Entre le lac Tanganyika, par où le minerai pourrait sortir, et Manono, il y a 240 kilomètres. Où sont les routes? Où est le chemin de fer? Comment on va acheminer ce minerai? Tout ça n'est pas réglé. Et donc les Américains, peut-être, ont eu les yeux plus grands que le ventre. Est-ce qu'ils sont capables, du point de vue logistique, de digérer le géant congolais? Ça n'est même pas certain. Est-ce que la Chine va les laisser faire alors que la Chine a conclu des contrats en bonne et due forme? On peut discuter sur les privilèges et les modalités, mais enfin la Chine a conclu les contrats du temps de Joseph Kabila. Est-ce qu'ils vont être dépossédés sans réagir? Voilà une autre question. Et est-ce que l'Europe va accepter éternellement que tout son hinterland, tous ces pays avec lesquels il y a des liens de solidarité, de connaissance, vont être captés par la puissance américaine? Est-ce que M. Trump est encore un allié de l'Europe? Rien n'est moins sûr. Donc moi je pense que dans toute cette affaire, il y a des intérêts à court terme qui sont ceux du pouvoir congolais, et on peut les comprendre, ils sont menacés par l'invasion rwandaise, ils ont fait reculer le Rwanda, ils ont réussi à briser le lien entre le Rwanda et les États-Unis, qui n'ont plus besoin d'un sous-traitant rwandais, donc c'est un résultat positif, mais à très court terme, à long terme, toutes les questions restent sur la table, et la tragédie, c'est qu'une fois de plus, comme à Berlin, comme à la fin de la colonisation, le peuple congolais n'est pas consulté. On dispose de lui, on dispose de ses ressources, sans lui poser la question.
Merci, Mike Gardidiana. Comment vous réagissez à cette prise de position du prix Nobel de la paix par rapport à tous ces processus pilotés depuis l'étranger?
Moi, déjà, à la base, j'étais de ceux qui estimaient que la solution pour ce contexte congolais n'arriverait pas au niveau de la sous-région, parce que je signe que la sous-région est une caisse de résonance qui obéissait à des politiques supra-venues juste au monde de cette fameuse communauté internationale. Mais après, la réaction de Denis Mukwege et moi, c'est en fait... j'ai envie de dire, un ras-le-bol du fait de l'historicité des accords signés depuis toujours. On a l'habitude de le faire sans pour autant avoir les résultats escomptés. Et je crois que dans ces contextes ici, il y a eu quelques signaux qui ont fait douter sur l'efficacité dans la résolution du conflit de manière directe. Mais il faut rappeler aux gens, en tant que témoin oculaire, aux États-Unis, il y a eu quatre accords signés. Le premier, c'est l'accord de paix signé avant le 5 juin dernier par les ministres des Affaires étrangères avec le Rwanda. Il y a eu l'accord de l'intégration économique et régionale. Il y a eu justement ces protocoles d'accord stratégiques avec les États-Unis, mais il y a également eu un MOU sur l'accord sécuritaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Sur les quatre. Maintenant, dans le fond, moi je comprends la préoccupation de la plupart, c'est que on ne peut pas prétendre de l'efficacité d'un accord de lors que nous, notre priorité aujourd'hui, c'est résoudre le problème de conflit sur terrain. Mais malheureusement, ici, on parle d'un accord économique qui est en fait un accord qui est l'appendice de dynamique de paix qu'on veut rechercher. Au niveau de l'accord, je vais apporter une précision. Cet accord n'est pas un accord d'exclusivité. L'accord n'accorde pas l'exclusivité de nos matières stratégiques aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le cas. Je rappelle une phrase que la première ministre Soumino aime évoquer, c'est que dans le contexte après analyse, il y a encore un peu plus de 80% de ressources à RDC qui sont non exploitées. On a encore suffisamment d'espace à revendre, quitte au plus offrant, et on est ici dans une approche, dans un accord de partenariat, dans un accord d'investissement. C'est pourquoi on chiffre même les capitaux que les Américains vont amener de l'ordre de 500 millions de dollars américains. Donc en gros, on est dans un contexte où on n'accorde pas l'exclusivité. Il n'y a pas lieu de se poser la question sur comment la Chine va évoluer. Je crois encore que dans un marché pareil, la Chine gardera encore le monopole pendant 5-6 ans. Tout dépendra de l'efficacité du travail que les Américains ou encore l'investissement américain pourra faire. De ce côté-là n'est pas le problème. Et cet accord-là, moi, en de termes simples, je n'ai pas de souci avec. Revenons sur les considérations sécuritaires. C'est à ces niveaux-là que moi, il y a quelques problèmes. La première erreur de la RDC dans la gestion de cet accord, c'est la gestion des KDFDR. Et aujourd'hui, je préfère avertir. Avec cette situation au niveau d'Ouvira, il est plausible que dans le jour à venir, qu'on habille des gens qui poseront deux actes au nom du FDLR pour pouvoir asseoir une certaine thèse qui justifierait les mesures défensives du Rwanda. Et ça, je préfère que la population en soit alertée déjà de l'avance. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez la posture. Je suis un peu d'accord, c'est que ici, cet accord-là, cette décision, les déclarations FCM23 de retrait, ce ne sont que de pures inventions, des éléments stratégiques pour pouvoir endormir la communauté et l'opinion en interne. Et donc, moi, sur la réaction de Nimokog, je suis d'accord avec lui aujourd'hui. La naïveté, je ne sais pas, mais il m'a semblé que finalement, l'approche de Trump me pose aussi problème. Cette forme de triomphalisme qu'il a sur cet accord-là, cette forme d'irréalisme qu'il manifeste sur l'accord, est en déphasage avec la réalité interne, et c'est ce qui nous dérange un peu. Je pense que ce ras-le-bol du docteur Mukog et beaucoup de Congolais le partagent maintenant. On observe, on est dans une posture où on a signé des accords, il y a le cessez-le-feu, il y a également une dynamique qui doit se mettre en place, il y a les accords complémentaires qu'il faut signer à Doha. Maintenant, on attend voir la bonne foi. Or, si on veut parler de la bonne foi, déjà que les partenaires ont manifesté leur mauvaise foi, maintenant, la grande question c'est qu'est-ce que le gouvernement pourra nous sortir dans cette phase pour pouvoir faire respecter. Et c'est là où j'arrive, je dis, dans les dynamiques au niveau international, je ne pense pas que le soft power suffise pour pouvoir résoudre un problème de guerre. Et je crois qu'à un moment donné, il y a lieu de pouvoir réactiver, savoir que le hard est important parce que la plupart des États indépendants, les puissances dont on parle, qui ont eu des éléments vocationnels comme nous, le plus grand dépense sont des dépenses de sécurité, dépenses de défense. Et je crois qu'il y a lieu de pouvoir déjà réfléchir sur cette thèse-là.
Merci beaucoup. Docteur de Joseph Kakisingi, cet accord n'est-ce pas un mal nécessaire dès lors que sur le terrain des opérations, la situation n'évolue pas positivement en faveur de la RDC?
Moi, je vais revenir d'abord par la déclaration du prix Nobel professeur Mukwege. Et je voudrais m'aligner sur ce qu'il dit, faire des négociations sans faire participer la communauté, c'est en fait faire des compromis sans la communauté, sans la population. Et moi, je me demande, par exemple, les accords de Doha. Quel est l'avantage du peuple congolais là-dedans? Qu'est-ce que la communauté de l'Est gagne? C'est en fait une sorte de... c'est garantir des gains entre les belligérants. Donc, une partie, le AFCM23 veut garantir ses intérêts. De l'autre côté, le gouvernement veut aussi garantir sa mainmise sur son territoire, ce qui est normal. Mais est-ce que vraiment on parle des intérêts de la communauté? On parle des intérêts de ces peuples de l'Est qui souffrent de la guerre pendant 30 ans? Est-ce que cela est au menu de ces discussions-là? Je ne crois pas. Donc là, ça pose un petit problème.
C'est pourquoi je vous ai, alors, je vous ai posé la question de savoir. Oui, c'est pourquoi je vous pose la question de savoir, est-ce que cet accord n'est pas un mal nécessaire? On est dans un contexte où les rapports des forces n'est pas en faveur de la RDC. Face à une telle situation, il fallait faire quelque chose, n'est-ce pas, pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Est-ce que cet accord n'est pas un mal nécessaire?
C'est juste là ce que j'ai dit. Donc c'est un accord pour que chacun essaie de garantir ses intérêts. Le gouvernement essaie de stopper l'avancée parce qu'il semble être en difficulté du point de vue militaire pour le moment. Et les F-523 essaient de garantir leurs réclamations pour eux. Donc, ce que la communauté gagne en fait, les peuples de l'Est, c'est cette semblant d'accalmie. C'est vrai, donc ça passe pour un mal nécessaire. Mais je vais continuer maintenant sur l'aspect des deals miniers. J'ai suivi attentivement ce qu'a dit Mme Colette. En fait, elle a raison quand on dit que c'est un partage, c'est une sorte de Berlin 2. Mais regardons les choses d'en face. Si cette chose arrive, c'est parce que les Européens ont été égoïstes. Les Européens n'ont pas vu les besoins de la communauté. Ils se sont accaparés des ressources minières, de tout ce qu'il y a à leur propre profit, sans voir qu'est-ce que peuvent gagner les Congolais. Juste parce qu'ils ont préféré, par exemple, passer par les intermédiaires. On sait aujourd'hui que les armes qu'utilisent les Rwandais viennent des pays européens. On le sait. Donc, ce sont les pays européens qui ont appuyé ce qui se passe. Ils ont appuyé les pillages, ils ont appuyé les vols. Et évidemment, il fallait trouver d'autres opportunités et pour mettre fin à cela. Et le pays s'est tourné vers les États-Unis. Donc, les Européens ne peuvent pas se plaindre parce que ce sont eux qui ont créé ces conditions. Ils ont fermé les yeux sur les cris du peuple qui demandait un appui, qui criait à l'aide, en fait, qui criait au secours. Ils sont restés attachés à leurs intérêts et aussi longtemps qu'ils pouvaient acheter les minéraux à partir du Rwanda. Ce qui est scandaleux, par exemple, le fait de signer un accord minier avec un pays qu'on sait qu'il vole les minéraux, ça c'est quelque chose d'immoral, de moralement non acceptable. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, l'Europe ne peut pas se plaindre, elle ne peut pas donner des leçons aux États-Unis. Ils sont responsables de ce qui se passe. Maintenant, pour revenir sur le deal minier, que veut le peuple de l'Est? Par exemple, moi, je suis sur une terre riche en minéraux et avec une forêt vierge. Mes grands-parents sont tués, mes frères sont tués chaque jour par les seuls faits qu'ils vivent sur des terres riches. Ils peuvent aspirer à quoi? À juste à quelqu'un qui leur apporte la paix et qui leur dise, moi je vais exploiter votre minéraux, vous allez vivre en paix, mais on peut aussi vous aider à améliorer votre vie et votre moyen de vivre. Et c'est tout ce dont on a besoin. Et c'est ce que les États-Unis semblent proposer aujourd'hui. On ne sait pas si ça va aller concrètement comme ça, mais pour moi, si on peut avoir la paix, si les gens peuvent venir, ils exploitent les minéraux, ils créent de l'emploi, et ils améliorent les infrastructures, et les gens vivent en paix sur leur terre, c'est tout ce qu'on veut.
Merci. Madame Colette Blackman, à votre avis, ça peut être quoi l'alternative à un tel accord?
Mais qu'au moins il soit doublé d'un volet social. Je n'ai lu nulle part les préoccupations sociales. Je n'ai lu nulle part que l'aide américaine, USAID, dont la RDC est un des plus grands bénéficiaires, cette aide a été supprimée l'an dernier. Je n'ai lu nulle part que l'USAID allait revenir aider à panser les blessures de la guerre, à réhabiliter les villages détruits, les femmes violentées, tout ça. Rien du tout. Tout le volet humain, le volet social, tout ça, humanitaire, je n'ai pas lu une ligne dans cet accord. C'est uniquement un accord économique et je suis assez désolée de voir que les autorités congolaises n'ont pas, elles non plus, mis en avant la souffrance de la population, le besoin de réparer les dommages qui ont été causés, de guérir les gens, de réparer les femmes. Tout ça, rien du tout, tout ça n'existe pas. Pas plus, pas plus qu'au moment de la conférence de Berlin, on ne s'est pas soucié de l'intérêt des populations. Eh bien, on est dans le même schéma aujourd'hui du rapport de force et de la répartition des richesses. Et on a chassé le petit voleur pour en mettre un autre encore plus puissant.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Kafoul Mayai de Rochero Tabouley. On se retrouve juste après.
Na koniko zonga mboka,
pote mobali a nyokolinga
C'était Kafoul Mayaï de Rochero Taboulay. On rappelle que ça fait maintenant 12 ans depuis que le seigneur Rochero Taboulay nous a quittés. C'était le 30 novembre 2013 à Bruxelles, en Belgique. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Mike Gardidiana, il est journaliste et éditeur des médias lesfrancs-tireurs.net et Baptiste Afrique, docteur de Joseph Okakisingi, coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC Conafod en sigle, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. La République démocratique du Congo a officiellement lancé lundi 1er décembre l'usage de la facture normalisée, marquant ainsi un tournant majeur dans la gestion fiscale du pays. C'est la Direction générale des impôts DGI qui pilote cette réforme dans le cadre d'un vaste programme visant à lutter contre la fraude fiscale, et mobiliser davantage des recettes pour l'État et protéger les droits des consommateurs. Une facture électronique sécurisée et standardisée. Concrètement, la facture normalisée est un document électronique généré à l'aide d'un dispositif électronique fiscal et connecté à la DGI. Elle contient toutes les informations clés, à savoir l'identité du vendeur et de l'acheteur, un numéro de facture unique, les produits ou services concernés, le prix total et les taxes applicables. L'objectif affiché est clair, accroître la traçabilité des transactions dans un environnement où l'économie informelle prédomine encore largement. Mike Gardidiana, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette réforme sur la facture normalisée. On vous écoute.
Merci. Je choisis de changer de cap parce qu'on ne voulait pas rester trop politique. J'en parle parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui que peu de gens sont à même de voir. Il est certes vrai que cette facture normalisée devrait être un élément complémentaire dans la réforme de la TVA depuis 2012. Jusqu'à preuve du contraire, on s'était posé la question pourquoi cette réforme a été implémentée sans la facture normalisée. Visiblement, je crois que la réponse c'est pour des raisons d'ordre technique. La difficulté aujourd'hui c'est qu'on parle de la facture normalisée qui a son mérite et qui mérite d'être mise en place aujourd'hui pour résoudre ce problème de mobilisation. Mais la difficulté, c'est que jusqu'au moment où on parle, il y a encore des entreprises, il y a encore des assujettis qui ont des difficultés, notamment en termes d'approvisionnement sur le dispositif électronique fiscal. Les logiciels, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas accessible à tout le monde. La deuxième difficulté, c'est qu'il existe encore de petites et moyennes entreprises, donc dans le capitaux, auront du mal avec le terme tel que défini par la DGI de pouvoir répondre aux exigences. La grande question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faudra qu'on aille comme ça ? tête baissée. Je le dis, c'est pas pour le grand société, parce que la FEC a demandé une prorogation. Je suis presque satisfait de la réponse du ministre des Finances. Il n'y a pas lieu de pouvoir proroger, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on aille sur une forme des disparités. Il faut tenir compte de la fragilité de certaines sociétés, mais également, faut prendre le temps de pouvoir implémenter. On a passé, je crois, à la peine, si j'ai bonne mémoire, 3 mois ici pour la sensibilisation, mais ça n'a pas suffi pour que finalement, dans différents coins de la République, que tout le monde soit même de pouvoir s'approvisionner en termes de logistique. Et ça, pour moi, c'est une fragilité énorme. On ne peut pas tabler sur une réforme sans que on se rassure de la capacité du gouvernement congolais à couvrir la demande et avant de pouvoir imposer cette norme à tout le monde. Donc il y a des sociétés aujourd'hui sur des espaces bien lointains qui ont envie de pouvoir se conformer mais qui ont des difficultés en termes d'approvisionnement, en termes d'obtention du logiciel.
Et donc pour vous, il y a des préalables qu'il fallait accomplir avant de lancer cette réforme ?
Exactement, il y a des préalables, bon, pas forcément avant de lancer, mais je pense qu'il y a des préalables en 6 mois, on aurait pu résoudre ce problème-là et mettre le DEF à la disposition de tout le monde et permettre à tout le monde de pouvoir s'en approvisionner sans la moindre difficulté. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte du contexte de l'écosystème économique aujourd'hui. Est-ce que tout le PME aujourd'hui, avec l'exigence qu'il y a avec ce dev-là, pourra répondre à cette exigence-là? Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'au niveau de la DGI et du ministère des Finances, pouvoir faire un travail. Je sais qu'il y a une commission permanente qui fait le suivi à ces niveaux-là. Il faudra réfléchir, peut-être pas aller dans le sens de répondre aux desiderata de la FEC de manière générale, mais je crois que dans les particularités, il y a lieu de pouvoir réfléchir et voir comment répondre de manière progressive et ne pas déjà très vite aller à la coercition et permettre à chacun de pouvoir répondre à cette exigence-là, ça sera aider la République, parce que je rappelle qu'on est déjà dans un contexte très difficile. La politique monétaire implémentée aujourd'hui a fait perdre suffisamment de ressources aux Congolais et particulièrement aux opérateurs. On ne veut pas le voir de près, mais la consommation a sensiblement baissé. On ne sait pas le ressentir parce que la réforme est arrivée au T4 de l'année 2025, mais pour la mobilisation 2026, je suis sûr qu'à ces niveaux-là, on va sentir peser les difficultés en termes de consommation pour la plupart des opérateurs subvenus avec cette appréciation assez subtile ou encore brutale du franc congolais sur le marché. Et je crois qu'il y a lieu de pouvoir déjà trouver des mesures de contingence pour éviter qu'il y ait de creuser à ces niveaux-là sur les approches économiques, sans tenir compte bien évidemment de la réalité économique avec les incidences d'ordre exogène.
Merci Madame Colette Dorfman de la Belgique, d'où vous intervenez. Quel est le regard que vous avez au sujet justement de cette réforme relative à la facture normalisée? Allô? Voilà, apparemment, elle n'est plus là. Docteur de Joseph Okakisingi, je vous pose la même question. Quel est le regard que vous avez par rapport à cette réforme relative à la facture normalisée?
Pour moi, c'est une très très bonne chose, parce que vous savez que notre pays est vraiment, et à juste titre, accusé de beaucoup de manœuvres de corruption. Et les gens qui travaillent, ils ont beaucoup de tracasseries financières avec tous ces réseaux de DGM, DGI et tout ça, où la taxation ne suit aucune règle, ou plutôt, il y a une règle, mais ceux qui viennent utilisent leurs propres règles pour pouvoir ramasser un peu d'argent, déranger un peu. Et pour moi, donc, c'est une chose qui vient mettre un peu de règles et peut-être limiter les taux de fraude et limiter aussi les taux de tracasserie et de la corruption, en fait. Pour moi, j'accueille ça très, très bien. Je ne suis pas très expert en matière, mais je pense que c'est quelque chose qui vient réguler un peu, réduire le taux de corruption et réduire aussi le taux de tracasserie et d'abus. Parce que surtout, les petits contribuables, parfois, ils ne connaissent pas exactement ce qu'il faut faire. On vient leur faire peur pour qu'ils paient un peu plus et pour qu'on les stocke un peu plus d'argent, alors que, généralement, si tout était fait naturellement et correctement, ils auraient payé moins ou, en tout cas, la somme qui entrerait directement dans la caisse de l'État.
Merci, merci, et c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Colette Wachmann, Mike Gardi Diana et Docteur de Joseph Okakisingi. Merci aussi à Pierre Diassino qui était à la technique avec la participation des Deps Vita, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Eve. Eve, cette composition des mondes imprégnés sortie en 1985 dans l'orchestre que Showstar. On écoute donc Eve de Montaprenier. On se retrouve les samedis prochains.
Kanda na lolendo babuneli na zungisa